Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous double effet Kiss Cool, puisque vous pouvez nous écouter, vous le savez, chaque jour dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et nous retrouver de 22h à minuit à l'antenne comme tout le monde. Ce soir, direction en un la Pologne avec Élise Ottenberger pour Lune de Miel, une comédie hantée par une tragédie historique. C'est le voyage en Pologne d'un jeune couple parisien aux origines juives polonaises à la recherche de leurs origines. Une fiction drôlatique trouée par une mémoire documentaire, c'est le registre de ce premier film. Changement de programme aussi ce soir, Mélodie Mouret devait être notre invitée. Pour sa pièce Les Crapauds Fous, un contretemps n'a pas permis ce rendez-vous. Aussi, je vous propose de repartir en Bulgarie avec Božina Panayotova qui signait en avril dernier un film de famille et d'espionnage, Je vois rouge. Au programme de ce documentaire, police secrète en Bulgarie, mafia, paranoïa post-communisme et enquête sur les secrets politiques d'une famille en dessous de tout soupçon. Et dans le énervé de la suite, burn-out. C'est quoi ce travail, Benoît Lagan ?
Oui, dans le privé comme dans le public, ça va mal au travail. Entre le procès France Télécom et l'OMS qui s'avise et se ravise autour du burn-out, on s'intéresse au sujet de ce soir avec la sociologue Danielle Linhart et la dessinatrice Zoé Touran, co-autrice ensemble d'une BD documentaire Le Burn-out, Maria Ouazani, psychologue clinicienne, et Hubert Prolongeau, journaliste indépendant, grand reporter et co-auteur du récit Enquête graphique publié chez Futuropolis, Le Travail m'a tué.
Allez, c'est parti, le énervé.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Mais tout de suite, avant de partir en Pologne, puis plus tard en Bulgarie, direction l'Angleterre avec la Fat White Family et un extrait de leur dernier album, Surf's Up.
Slowly beat myself to death.
Le rock planant de Fat White Family, c'est dans le NRV, bien sûr.
A new rendez-vous?
Oui.
No. The new rendez-vous.
La Pologne, entre comédie et tragédie historique, c'est pour vous, Elise Otzenberger, au cinéma avec ce premier film, Lune de miel. C'est l'histoire d'un couple de Parisiens, ils sont d'origine juive polonaise. Ils partent en Pologne à la recherche de leurs origines. Alors bien sûr, on va entrer dans le film dans quelques instants, mais d'abord, au départ, pour trouver ce sujet atypique pour un premier film, parce que généralement, les premiers films, ce sont des comédies, quel a été l'élément déclencheur ?
Alors, le film raconte un voyage que j'ai fait il y a quelques années dans ma vraie vie.
Dans votre vraie
dans
vie.
Dans ma vraie vie.
Voilà. La fosse, c'est le cinéma.
C'est un peu ça.
Ouais.
Donc, je suis partie en 2009, juste après mon mariage et la naissance de mon premier enfant, comme Anna et Adam, à l'occasion d'une commémoration dans le village où est né le grand-père de mon mari. Beaucoup de choses sont assez proches de ce qui s'est passé en vrai. Après, j'ai ajouté de la fiction, je me suis amusée avec ce sujet, mais les lieux sont les mêmes, le parcours est le même. Voilà, il y avait des choses qui étaient... Je ne pouvais pas tricher sur certaines choses, c'était important pour moi. Même si je ne voulais pas faire un documentaire, j'ai très vite su que ça allait être une fiction. Mais il m'a fallu du temps pour écrire, en fait. Juste après le voyage, j'ai écrit des choses, je ne savais pas, est-ce que ce serait un roman, est-ce que je ne savais pas bien. Et à un moment, c'est devenu une évidence qu'il fallait que ce soit le sujet de mon premier film, parce que j'avais envie de parler de quelque chose d'intime.
Et... C'est bizarre que vous parliez de documentaire, même si c'est devenu une fiction. On parlera tout à l'heure plus amplement du film. Il y a une trouée documentaire à l'intérieur. Mais quand même, vous avez pensé à un moment donné que ça aurait pu être un documentaire pour dire...
Alors, je me suis interrogée. Après, mon premier travail, c'est d'être actrice et j'avais vraiment envie de passer à la réalisation et de diriger des acteurs. Donc, je n'avais pas trop de doutes là-dessus. Mais je sentais qu'il y avait des choses vraies à montrer. Donc, la question m'a traversé l'esprit à un moment. Ouais.
Alors, on vous a demandé des sons pour faire plus amplement connaissance. Un souvenir d'enfance pour vous, donc, Elise Otzenberger.
Mes enfants, mes amis, mes camarades, vous aimez la musique, puisque vous avez disposé ce disque sur votre appareil. Alors, je vous demande tout simplement, connaissez-vous ce que vous venez d'entendre ? C'est la symphonie en sol mineur de Wolfgang Amadeus Mozart. Vous connaissez tous, au moins de nom, cet étonnant musicien, l'un des plus grands musiciens du monde.
C'est quoi ce souvenir d'enfance et quelle est cette voix de théâtre ?
Mais la voix de Gérard Philippe, bien sûr. Je m'endormais avec ces petites cassettes, car c'était des cassettes à l'époque, d'une collection qui s'appelait Le Petit Ménestrel, qui racontait la vie des grands musiciens. Alors, mon père, qui aime beaucoup la musique classique, m'avait sans doute offert de manière très intéressée ces cassettes. Mais j'ai passé des années à m'endormir avec les vies des grands musiciens et avec cette voix de théâtre. Donc, je pense que ça a dû faire naître sans doute des choses en moi très tôt. J'imagine. Je me faisais des films en écoutant tout ça.
Le théâtre, quel rapport avec votre propre vie ?
Le théâtre, c'est vraiment mon premier travail d'actrice.
Ah oui, c'est ça. Voilà, d'actrice, c'était... oui. Avant ouais, de devenir
exactement.
Réalisatrice aujourd'hui. Ouais.
Exactement. J'ai commencé, j'ai joué une première pièce de théâtre quand j'étais au lycée. Et puis après, j'ai eu la certitude que je voulais faire ça. Donc vraiment, j'adore le théâtre. Ça a été très, très important pour moi. Même si je pense que mon envie d'actrice est née aussi de films que j'ai vus très jeune. Enfin, le cinéma était déjà très présent. Mais je me suis beaucoup amusée au théâtre, vraiment. C'était important.
Et quel rapport avec le théâtre dans votre propre famille ? Il y a un lien ?
Non, pas spécialement. Ma famille est une famille d'images plus, parce que mon père a réalisé des documentaires pendant longtemps, il a travaillé à la télévision, donc c'était plus l'image. J'ai un frère aussi qui a réalisé des documentaires. Donc non, le théâtre, c'est plus venu de moi. Ouais, c'est...
Alors on part du côté du cinéma pour vous, Elise Otzenberger. Qu'est-ce que représente ce son pour vous ?
Ah, c'est ma vie. Je suis obsédée par ce film. Je crois vraiment que c'est ma première grande émotion de cinéma. E.T., c'est, pour moi, c'est, C'est le film idéal, profond, drôle, émouvant, qui parle à plein de monde à la fois. Enfin voilà, c'est d'une richesse incroyable et c'est tellement intelligent, c'est un scénario parfait. Enfin, tout est là et moi je l'aime chaque année qui passe, j'y pense tellement souvent. Donc c'est vraiment un film très important. Je l'ai revu beaucoup avant de tourner mon film, même si ça n'a pas grand-chose à voir avec le sujet du mien, mais c'est très inspirant. Et puis la première mise en scène que j'ai faite, alors qui était au théâtre et pas au cinéma, ouais. C'était un spectacle qui parlait de mon obsession pour Steven Spielberg, pour ce film en particulier. Après, c'était un prétexte pour parler du temps qui passe, de l'enfance. Ça ramenait des souvenirs, en fait. Mais voilà, c'est aussi important pour ça, parce que mon premier spectacle parlait vraiment de ma relation à E.T.
Et Spielberg,
bah voilà, pareil. Alors, donc E.T. en premier lieu, mais après, plein d'autres souvenirs tellement forts. Rencontre du troisième type, bien sûr. Je suis très obsédée par les extraterrestres aussi. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup.
Ouais. Non, c'est pas vrai.
Si.
Mais à quel niveau?
Ah, mais alors, non, pas, je vais pas dans des réunions bizarres de gens en haut de la montagne. Hein. Non, pas du tout. C'est très cinématographique et non, ça me fait beaucoup rêver. Oui, ça me fait imaginer plein de choses. Donc, c'est un sujet qui me fait rêver, oui.
On va vous retrouver dans quelques instants, Elise Ottenberger. Tout de suite, on a rendez-vous avec le chef de file rescapé d'une chanson qui flirte avec le rock, Christophe Miossec dans le NRV.
Les gens, quand ils sont les uns dans les autres, veulent-ils s'alléger de tous leurs tourments? Veulent-ils se laver de toutes leurs fautes? Veulent-ils retrouver la légèreté, ce moment rare où l'on flotte, où l'on pense enfin avoir trouvé le produit, le remède, le vaccin, l'antidote? Faire l'amour. Faire l'amour. En simulant au cœur mon premier jour, tout simplement, où en allant se jeter de tout du haut de la tour. Les gens, quand ils sont les uns dans les autres, quand ils sont peau contre peau, quand ils ont bien refermé la porte, se disent-ils des mots, des choses que l'on chuchote et qui font que la peau aspire la douceur de la phrase, la syllabe presque.
Quand ils sont les uns dans les autres, une programmation un peu cap d'Agde pour Jean-Baptiste Libert.
Le nouveau rendez-vous.
Mais quand même incroyable, ma mère. Elle prend une purée surgelée que j'ai préparée pour 6 mois et qu'est-ce qu'elle met dedans?
Dans quoi?
Bah dans la purée. Elle a rajouté du jambon. Du jambon.
Mais c'est pas bien le jambon.
Bah non, c'est pas bien. Évidemment que c'est pas bien.
Bah t'en as jamais mangé cachère de toute manière, non?
Laurent Goumard.
On est quand même en Pologne sur les traces de nos familles exterminées parce qu'ils étaient juifs. On pourrait peut-être faire une petite trêve du cochon.
Your sausages.
Non, c'est notre formule.
T'as commandé des saucisses ?
Mais non, pas du tout, je n'ai pas commandé de saucisses. Et donc t'es qui ? Because I don't order it, donc et donc t'es qui ?
Sur France Inter.
Scène de ménage pour Lune de Miel, ça commence fort avec vous Elise Ottenberg. Et premier film sorti en salle demain, Lune de Miel, c'est le voyage en Pologne d'un jeune couple, Anna et Adam, origine juive polonaise, au programme la commémoration du 75e anniversaire de la destruction de la communauté du village du grand-père d'Adam. Un voyage qui réserve des surprises, notamment pour Anna, qui ne sait pas grand-chose de sa famille, on ne parle pas beaucoup, mais qui ressent à fond les sensations de ses ancêtres, bande annonce.
Hava, Nagila, Hava.
Je me sens super polonaise. J'ai des sensations qui remontent.
Mais attends, t'as quoi comme sensation parce que t'es jamais venue ici ?
Je sais pas, c'est les sensations de mes ancêtres. Tu sais, c'est un peu comme les Bretons quand ils retournent en Bretagne, ou les Lorrains quand ils vont en Lorraine, ou même les Chatounes à Chatou.
Je pense qu'on aurait pu aller à New York.
Excuse me, madame. Radziejewska, you... Vous connaissez Radziejewska ? C'est le nom de ma grand-mère. Radziejewska, you don't know ?
Ça va super, tout est super.
Attends, qu'est-ce qui se passe là-bas ? On est où ?
C'est parce que je suis une pauvre conne et qu'on est exactement au fin fond du cul de la Pologne.
Tu sais quoi, Anna ? Souvent, je me dis que ça serait plus simple si t'étais pas juive.
Putain, j'ai épousé un juif antisémite.
Et puis moi, j'ai épousé Rabbi Jacob.
Arrête cette bagnole.
Alors, cette lune de miel, hein ?
Tu sais, Clément, c'est pas vraiment une lune de miel. Hein. L'anniversaire d'une extermination, c'est ce qui donne le plus envie de mettre sa culotte sur la tête.
Ce voyage drôlatique, vous l'avez vous-même vécu en 2009, avec bien sûr la réserve de la fiction, il y a donc 10 ans. Quel est le souvenir qui vous revient immédiatement par rapport à ce voyage, Elise Ottenberger ?
Ce que je montre dans le film, l'arrivée chargée de toute cette histoire, de ce besoin de découvrir des choses, même si on sait qu'on va trouver le vide et l'absence, et la découverte de tout ce tourisme autour de la Shoah qui m'a quand même beaucoup choquée à l'époque, même si c'était pas aussi massif que lorsque je suis retournée pour les repérages. Ça avait encore
évolué. Ah, donc encore évolué. En 10 ans,
encore
ça avait...
plus de monde. Ouais. Donc ça, oui, je dois avouer que c'est le premier choc vraiment oui, très impressionnant.
Le tourisme autour de la Shoah.
Oui, alors parce qu'on... c'est un mélange d'émotions, c'est-à-dire qu'à la fois, on se dit que c'est une forme de travail sur la mémoire, malgré tout, au moins on essaye de faire quelque chose, mais c'est fait avec un tel mauvais goût, avec quand même vraiment une notion mercantile un peu désagréable.
C'est dans un quartier précisément ?
C'est un quartier précis, alors il faut savoir que...
Cracovie.
Voilà, à Cracovie, dans l'ancien quartier juif, c'est le quartier où a tourné Steven Spielberg, justement, la liste de Schindler, et à partir du moment où ce tournage a eu lieu, ça a pris un essor pas possible, donc il y a vraiment eu un business qui s'est construit autour de ça. Voilà. Et il n'y a plus beaucoup de vrais endroits, à part le cimetière que je montre dans le film, qui est un espèce d'endroit comme ça, un peu préservé, où il y a des tombes très anciennes, un peu isolées de tout ce tourisme.
Alors justement, ce qui est intéressant, j'allais y revenir un peu plus tard, mais comme vous en parlez, parce que ce cimetière, ça vous permet une sorte de trouée documentaire, c'est-à-dire que dans ce cimetière, on rencontre une femme, enfin vos personnages rencontrent une femme qui emmène des collégiens en Pologne, une femme française, qui intervient dans les lycées, Evelyne Askolowicz.
Oui.
Et là, c'est du documentaire.
Oui, alors, je tenais à cette scène qui parle de la transmission. Je voulais la présence d'un ou d'une rescapée. Mais je n'imaginais pas que ce personnage puisse être joué par un acteur ou une actrice. Ça
pour
me posait un problème.
Bah,
pour un problème de fiction, de la même manière que lorsque j'ai fait ce vrai voyage, nous sommes allés passer une journée dans le camp d'Auschwitz et je me suis longtemps posé la question, est-ce qu'il faut que cette scène soit dans le film ou pas ? Est-ce qu'il faut qu'Anna et Adam aillent dans le camp ? Et j'étais mal à l'aise à l'idée de mettre de la fiction là-bas.
D'accord,
et je pense que j'avais pas de propos de cinéma suffisamment fort pour cet endroit-là. Enfin, il y avait quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Pareil pour ce personnage de la rescapée. J'avais besoin d'une vraie personne. J'ai rencontré Evelyne et qui en plus, voilà, elle est exactement le personnage qu'il me fallait pour raconter ça parce qu'elle passe vraiment un temps fou à aller témoigner dans les écoles. Elle est très active. Elle s'est mise à parler assez tard. Elle raconte que la parole s'est débloquée quand elle a eu ses petits enfants.
Exactement. Ouais.
Et depuis, elle n'arrête pas. C'est un besoin. Donc elle est voilà. Et ça, c'était important de parler de ça, de la même manière que j'avais en moi un besoin de faire le film avant que ces témoins ne disparaissent. Bon, je ne sais pas pourquoi, ça n'a rien de très... Je ne sais pas, c'était une sensation... J'avais besoin de ça, c'était important pour moi.
Qu'est-ce qu'elle vous a raconté que vous ne saviez pas, justement, cette rescapée ?
Alors, elle m'a raconté ce que je... Pourtant, j'ai quand même pas mal lu et vu de choses sur le sujet.
Vous êtes documentée sur le sujet, oui.
Elle m'a raconté, donc elle a été déportée enfant. Et elle m'a raconté ce qui se passait pour les enfants particulièrement. C'est-à-dire qu'elle, quand elle est rentrée, ses parents, en premier lieu d'ailleurs, n'imaginaient pas qu'elle puisse être traumatisée, parce que c'était une petite fille à l'époque. Donc ses parents se disaient, bon non, mais elle ne se souviendra pas. Donc elle a dû vivre une espèce de double peine, en fait, de victime, où on ne parlait pas et surtout on ne considérait pas qu'un enfant puisse être en souffrance. Alors ça a à voir aussi, j'imagine, avec le rapport qu'on avait à l'enfance de toute manière dans ces années-là. La pédiatrie n'était pas... Et alors la pédopsychiatrie encore moins. Et d'ailleurs, pour être même encore plus concret que ça, les enfants anciens déportés ne touchent pas de pension, ne sont pas indemnisés, parce qu'on considère qu'ils étaient enfants. Donc je crois qu'elle, très tard, a réussi quand même à faire bouger un petit peu les choses. Mais voilà, alors ça, tout cet aspect-là, je ne le connaissais pas, effectivement, puisque c'est la première personne enfant déportée que j'ai rencontrée.
Et vous, cette histoire, qui en parlait dans votre famille ?
Alors, mon père en parlait beaucoup, ma mère aussi un peu, surtout mon père, mais il parlait du général, en fait. Il ne parlait pas de l'intime, même si ma grand-mère paternelle n'a pas été déportée, elle a été cachée en France pendant la guerre, elle venait de Roumanie, mais elle a des sœurs qui ont été déportées, donc bon, il y a quand même des gens très proches dont il aurait pu me parler. Il m'a montré très tôt des documentaires, fait lire des livres, même un peu trop tôt d'ailleurs. Je pense que c'était quand même un peu chargé quand j'étais enfant. Mais voilà, on parlait du général, pas de l'intime.
Comment vous êtes organisé, vous, pour votre propre voyage ? Et qu'est-ce que vous cherchiez à l'époque ? Alors, en 2009
Déjà, cette proposition de voyage est arrivée de manière un peu inattendue. On s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas aller à l'invitation de cette dame polonaise qui a organisé cette commémoration, parce que je ne suis pas sûre qu'on serait allé en Pologne de nous-mêmes s'il n'y avait pas eu cette occasion-là. Donc on s'est dit, c'est un signe, il faut y aller, c'est important. Et puis, un peu comme Anna, je voulais faire remonter les fantômes du monde perdu. Mais en fait, on ne peut pas, parce qu'il est vraiment perdu, ce monde. Il n'y a vraiment plus rien.
Vous aviez des appréhensions avant de partir ?
Oui, j'avais des appréhensions. Oui, parce que même si j'essaye d'être raisonnable et de ne pas continuer les paniques familiales, on est chargé d'histoires. Alors, c'est ce que je fais dire au personnage de Brigitte Rouen dans le film, qui dit que tous les Polonais sont antisémites, que c'est un pays atroce.
C'est alcoolique. Voilà. Il fait nuit à partir de 14h. Donc les gens boivent, bien entendu. Voilà,
donc j'essayais, moi, comme Anna, de me dégager de tout ça. Bon, malgré tout, quand on a passé toute son enfance à entendre des choses affreuses sur la Pologne et les Polonais, c'est quand même un peu difficile de se libérer totalement de ça. Mais j'ai essayé et surtout, j'ai fait un film là-bas. J'ai travaillé avec des équipes polonaises. J'ai des amis polonais maintenant.
J'adore cette phrase. Vous savez ce qu'elle signifie ? J'ai des amis polonais, monsieur.
Donc attention, il y a eu du progrès.
Alors justement, qu'est-ce que le cinéma a permis de libérer ? Parce qu'y aller pour son propre compte privé en 2009, c'est une chose. Y retourner quelques années plus tard pour le cinéma, avec le cinéma, qu'est-ce que le cinéma vous a permis de découvrir de votre histoire et de cette histoire ?
Je sais pas, c'est difficile. C'est encore un peu tôt, je pense, pour le savoir. Et d'ailleurs, je sais pas si ça aura libéré vraiment quoi que ce soit. En revanche, je pense que ça m'a aidé à faire quelque chose de cette histoire de manière intime, en fait. Donc voilà, moi, j'aurais des choses à raconter à ma manière, à mes enfants. Je pense que ça, c'est important. Donc je me suis emparée de cette histoire en la faisant mienne avec ce film. Bon.
Est-ce que vous avez aussi tenté de retrouver des choses que vous aviez vécues, des gens que vous aviez rencontrés lors du premier voyage ? Des lieux, par exemple ?
Oui, alors complètement, des personnes. On voit pendant la commémoration à Zirch une femme avec des yeux bleus qui joue donc le rôle de la mère de la dame qui parle français, qui organise la commémoration. Et elle, cette dame, je voulais qu'elle soit là. C'est la dame qui nous a vraiment invités en Pologne, qui est une dame donc, de ce petit village, de Zirch, à côté de Lodz, enfin on dit Łódź d'ailleurs, et qui une dame polonaise passionnée d'histoire qui a découvert très tard l'existence de la communauté juive de son village en s'intéressant à l'architecture de son village, en fait, un peu par hasard. Et elle a découvert l'existence de cette communauté juive. Communisme, silence, tout ça, elle n'en savait rien. Et elle s'est passionnée pour cette histoire et elle s'est mise en tête d'organiser cette commémoration. Et c'est elle qui nous a invités, une dame catholique polonaise. Et elle, c'était important pour moi de la retrouver, qu'elle soit dans le film. D'ailleurs, c'était drôle quand je l'ai appelée pour lui parler du projet, elle n'en revenait pas parce que c'est vraiment une petite ville. Elle était très étonnée qu'on fasse un film sur toute cette histoire, mais c'était important pour moi.
Il y a des photos que l'on voit dans le film. De quel ordre sont-elles, ces photos ?
Alors, il y a des photos personnelles, il y a des photos de mon équipe aussi. J'ai fait un espèce de petit album familial de l'équipe. Et puis, il y a des photos qu'on a faites pour le film, pour inventer l'histoire d'Anna et Adam, leurs photos de mariage.
Et vous, comment vous êtes documenté, même pour trouver la qualité de l'image et la lumière de ce film ?
Alors ça,
c'est très particulier, en fait.
C'est vraiment mon imaginaire à moi. J'ai beaucoup travaillé avec ma chef opératrice, Jordan Chouznou, qui a fait un travail formidable. Donc moi, je suis absolument débutante. Mon expérience de cinéma, c'est une expérience d'actrice, donc je savais très précisément ce que je voulais, mais avec les mauvais mots. Donc, il fallait quelqu'un qui soit capable de traduire. Mais donc, j'ai dessiné, je lui ai parlé de films qui étaient importants, je lui ai parlé de couleurs. Bon, avec mes mots un peu pas très professionnels. Et elle a su détecter ça. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le cinéma américain des années 70-80. Mmh. Donc, c'était vraiment une inspiration. Je voulais aussi qu'on voit beaucoup la Pologne, que mes acteurs... Enfin, qu'on voit le décor, en fait. Que mes acteurs soient libres et de la place pour pouvoir jouer. Donc on a essayé de faire ça, mais je me suis pas documentée. J'ai essayé de rêver sur les paysages que j'avais retrouvés en repérage.
Vous-même, vous êtes actrice. Vous dites que vos personnages, vous vouliez justement que vos acteurs puissent évoluer dans le décor. Quel type de directrice d'acteur êtes-vous ?
Alors, je crois qu'ils ont été assez heureux. Je crois que je crois.
Parce que vous-même, vous avez vécu ça voilà. Chez les autres.
Je sais pas, hein, mais non, je pense qu'ils ont été assez heureux. Alors après, j'étais très présente, j'avais besoin d'être à côté d'eux, j'étais tout le temps collée, j'étais tout le temps vraiment très proche du plateau.
Vous n'étiez pas derrière le combo.
Non, j'étais vraiment très très proche.
Comme
avec
au théâtre.
Un moniteur. Ouais, j'avais besoin d'être là. Et en revanche, j'ai vraiment beaucoup travaillé l'écriture du film et j'ai réalisé que j'étais assez casse-pieds sur les dialogues et que je les empêchais d'improviser. on plaisante souvent là-dessus parce que les gens pensent que c'est assez improvisé alors que pas du tout. J'ai même été un peu pénible voilà, à remplacer un article par un autre. Je pouvais
ça veut
être...
dire que le texte est très important pour vous.
Oui, vraiment.
C'est le théâtre ?
Sans doute, ouais,
au départ. Pense.
Oui, et puis c'est un scénario que j'ai travaillé, porté pendant longtemps. Donc je pense que je ne vais pas travailler pour rien.
Vous ne vous êtes pas réservé un rôle dans le film ? Pour quelle raison ?
Non, parce que j'avais bien conscience qu'en jouant, je n'allais pas pouvoir profiter autant de ce qui m'amusait dans la réalisation. Et je me suis pas trompée parce que ce que j'ai adoré faire, c'est placer au dernier moment un petit truc dans le décor, bouger le cadre, aller près des acteurs. Enfin, je voulais vraiment fabriquer de la manière la plus concrète et j'avais besoin de toucher un peu comme au théâtre encore. Voilà, c'est vrai. Je voulais fabriquer vraiment tout ça.
Justement, au théâtre, quand vous avez commencé, quelle actrice rêviez-vous d'être, Élise Ottenberger?
Oh, c'est difficile.
Quel théâtre vouliez-vous défendre?
Alors, c'est venu un peu tard. C'est venu quand j'ai commencé à prendre des cours de théâtre parce que j'étais allée au théâtre, bien sûr. J'étais allée à la Comédie Française. J'avais vu des grandes pièces. Mais mes parents m'emmenaient assez peu au théâtre. Donc, j'avais plus des images de cinéma. On y revient. Steven Spielberg, je pense que j'aurais adoré être une femme d'Indiana Jones ou quelque chose comme ça. J'étais fan de Jodie Foster dans Le Silence des Agneaux. Ça m'a obsédée pendant longtemps. Voilà. Ça, c'était des personnages comme ça qui me faisaient rêver. Le théâtre, c'est venu après. C'est venu une fois que c'était plus conscient. Après, aussi, j'ai des souvenirs de théâtre de Catherine Yeagel, de femmes, des femmes puissantes quand même. Voilà, j'ai des souvenirs de femmes de théâtre puissantes qui m'ont impressionnée.
Et aujourd'hui, vous êtes décidément devenue réalisatrice ?
Alors, j'ai pas du tout envie d'arrêter de jouer, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de très rapidement refaire un deuxième film. Donc, c'est la priorité. Je suis déjà en train d'écrire et voilà.
Alors, justement, comment on monte un premier film avec un tel sujet, même si on est dans le registre de la comédie ? Un sujet qui n'est pas facile pour un premier film, j'imagine qu'il y a eu des obstacles.
Oui, ça a été compliqué parce qu'il a fallu trouver des interlocuteurs qui ne m'abîment pas mon sujet et qui me permettent d'avoir les acteurs que je voulais avoir. Alors j'ai commencé à travailler avec des gens dont je me suis séparée assez rapidement, qui voulaient m'imposer des têtes d'affiche qui n'allaient pas avec mon film en fait.
Ah, ça c'est toujours la question de financement. Ouais,
voilà.
Là, c'est Judith Chemla, Brigitte Rouen, voilà. André Wilms.
Exactement. Et alors quand j'ai rencontré enfin ma productrice qui elle a bien compris ce que je voulais faire, et ben là, tout était possible. Je pouvais choisir les acteurs que je voulais, je pouvais écrire le scénario que je voulais. Et quand ça se passe comme ça, c'est merveilleux. Mais ça implique de le faire dans des conditions financières assez précaires, c'est sûr. Plus que si j'avais pris une star de la chanson ou je ne sais quoi.
C'est ce qu'on vous a proposé ?
Non, je dis ça pour rien. Non, mais il y a des idées folles. Hein. Il y a certaines réunions comme ça quand on monte un film. Alors en plus, quand on est au début d'écriture, parfois... Il y a des idées folles, parce que certaines personnes s'imaginent qu'on fait des films comme on fait, je sais pas...
Une recette, oui.
Une recette, exactement. Et ce qui souvent ne marche pas, d'ailleurs, hein, donc c'est un peu absurde. La chance que j'ai eue, même si j'ai... Alors, après, en plus, moi, c'était mon premier film, donc c'était déjà un miracle de pouvoir le faire. J'ai jamais senti le manque d'argent ou le manque de moyens, parce que je trouve ça déjà tellement miraculeux d'avoir eu autant de personnes dévouées à cette cause folle. Donc moi, j'étais très heureuse. Mais surtout, j'ai été libre. J'ai pu faire vraiment le film que je voulais faire.
Premier jour de tournage, vous vous souvenez?
Ah oui, très bien. Très bien, c'était toutes les déambulations dans Cracovie. Alors c'était une scène...
Ah, ça se passait à Cracovie, le
ouais.
Premier... D'accord, ok.
Oui, ouais. On a commencé par tourner à Cracovie. J'ai essayé de garder au maximum l'ordre chronologique. Oui, parce que je voulais vraiment... On a beaucoup préparé le film avec Judith et Arthur à Paris. On s'est vus, on n'a pas tant travaillé le scénario, mais surtout tous les à côté, en fait. Le passé de ce couple, leur construire une histoire, je les ai fait lire. Ils ont lu des livres, on a vu des films, on a travaillé des scènes qui ne sont pas dans le film. Et je voulais qu'ils arrivent en Pologne chargés de tout ça pour pouvoir vraiment vivre ce qui se passait.
Donc, premier jour de tournage.
Premier jour de tournage, déambulation dans Cracovie. C'était des scènes muettes, mais qu'il fallait mettre. C'était vraiment du dessin, il fallait les mettre en scène. C'était des scènes larges, donc c'était assez impressionnant. Et puis surtout, pour aller dans le sens du personnage de Brigitte Rouen, il faisait un temps terrible, il a plu toute la journée. J'étais pas du tout équipée, donc tout le monde me regardait en pensant que j'allais avoir une pneumonie le premier soir. Et en fait, non. Ça, on a une petite adrénaline qui protège.
Les films que vous leur avez demandé de regarder et les livres, c'était quoi?
Alors, Steven Spielberg, évidemment.
Ah bah d'accord, ils n'y échappent pas, bien sûr. Le tour de soucoupe volante.
Je leur ai parlé de Kramer contre Kramer, je leur ai parlé de Woody Allen, je leur ai parlé de... Je voulais qu'on arrive à une... Je voulais que la relation... Parce qu'il y avait... Alors, il y a le sujet du film, et puis il y a cette relation de couple qui était très importante pour moi. Je voulais vraiment montrer un couple qui s'aime depuis un moment...
Qui vient d'avoir un enfant.
Qui vient d'avoir un enfant, mais c'est pas un jeune couple pour autant. Je voulais montrer un amour, qui soit pas la rencontre amoureuse, la rupture. Je voulais ce moment aussi, que j'espère beaucoup de gens vivent quand même. Parce qu'une histoire d'amour, c'est aussi le temps qui passe. Et puis, je voulais un couple solide, et je voulais... Alors, Kramer contre Kramer, c'est l'histoire d'une séparation, mais... L'intime, en fait. Ces choses-là qui, je trouve, sont très, très bien montrées par les acteurs de cette époque. Dustin Hoffman, en premier lieu. Mais, je leur ai beaucoup montré de films de cette époque.
Juste une question sur un détail qui est dans le film. À un moment donné, il se balade dans les rues de Cracovie. Et le mot juif est présent sur les murs. C'est quelque chose que vous avez vérifié?
Oui, alors
et ça... Et l'anecdote qui racontait est vraie?
Alors, l'anecdote est complètement vraie.
On la raconte?
Oui, alors, donc, en fait, il y a des étoiles tagués de manière vraiment pas très... Enfin, bon, des tags, quoi. Des étoiles juives. Et en fait, donc, en demandant à des Polonais... Voilà, les équipes de... Les supporters des équipes de foot s'insultent en se traitant de juifs, en fait. C'est une insulte, comme... Voilà. Bon. Donc, ça se fait encore beaucoup. Voilà. Non, ça c'est... J'ai pas du tout triché, de la même manière que j'ai pas triché sur ce qu'on voit dans le marché opus quand on voit les croix gammées qui côtoient les étoiles jaunes ou les chandeliers de prière... Non, il y a une parole libérée assez étonnante quand même.
Ouais. Justement, alors ce sujet, comment vos parents ont réagi à ce film?
Ils sont pudiques, ils sont heureux, ils sont fiers. Non, ils sont contents. Après, on ne change pas une équipe qui gagne. Ils m'ont pas dit non plus. On est restés.
Ils étaient retournés en Pologne aussi?
Non.
Ah oui, donc le film a été le lieu de redécouverte d'une certaine Pologne.
Oui, alors mon père n'est pas d'origine polonaise, c'est ma mère. Ouais. Oui, alors je pense qu'elle dirait qu'elle savait, qu'elle n'est pas du tout étonnée vu son...
D'accord, c'est un peu le personnage de Brigitte Rouen.
Oui, je pense.
D'accord. Donc comme quoi, l'affection a de gros liens avec la réalité. C'est ce que l'on peut voir, donc Lune de miel, sortie en salle demain. Merci Elise Ottenberger,
merci
vous
beaucoup.
Serez bien sûr à la première... Quand ça va passer, ça passe à 9h du matin au hall, vous serez dans la salle?
Ah, je sais pas.
Faites partie de ces réalisatrices, réalisateurs.
Mais je sais pas, alors j'attends de voir mes réactions. En fait, je me regarde là, j'essaie de voir comment je vis tout ça.
Vous seriez une avant-première,
ouais.
Et demain, normalement, à 9h.
On va voir
vous y
peut-être, ouais, sans doute, je ne sais pas, j'ai peur.
Merci à
Merci.
Vous.
Merci. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hut. The water's the shell and we are the nut. But I saw a hand out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? You can't appear inside of nowhere. It's already dead. I know you have the dove. I'm not. Looks like
the child, so begins the braiding, and in that braid you stay. Look at all the peaches.
Barrel de la folk australe et délicate signée Aldous Harding avant de partir non plus en Pologne comme prévu mais en Bulgarie. Je vous explique. On avait rendez-vous avec Mélodie Mouret pour sa pièce Les crapauds fous, l'histoire vraie et extraordinaire de médecins polonais qui ont sauvé des milliers de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a eu un contretemps, donc je vous propose de partir en Bulgarie pour une histoire elle aussi très troublante, celle de Božina Panayotova qui a mené l'enquête sur sa famille, sur ses parents, sur ses grands-parents, membres du Parti communiste. C'était le NRV du 29 avril dernier. Božina Panayotova était face à Dov Alfon, correspondant du quotidien israélien Haaretz, qui signait lui son premier roman. Un livre d'espionnage géopolitique, Unité 8200.
Pardon, mais c'est qui ce type en fait ?
Laurent Goumard.
Il fait des hypothèses pour lui, tu vois, c'est évident que s'il sortait du pays, si, vu leur métier, etc., ben, voilà, il devait être dans le réseau de la police secrète. Jamais il m'a parlé de police secrète, jamais il m'a parlé des camps de concentration, tu vois.
Le nouveau rendez-vous.
C'est flippant, enfin, je... C'est la Stasi bulgare, quand même.
Mais en fait, juste, pardon, mais tu vas revenir quand?
Bah, je sais pas, mais... Je pense qu'en tout cas, je vais pas rentrer tout de suite.
Sur France Inter.
Ah non, ça, vous n'allez pas rentrer tout de suite. Ce qui est très marrant, c'est que dans cet extrait, vous parlez par Skype à votre mari et vous chuchotez comme si vous étiez espionnée, complètement paranoïaque.
Ouais, Božina. Oui, j'avais déjà la maladie qui commençait à infuser de partout. Effectivement, j'étais dans la salle de bain chez mes grands-parents.
À Sofia?
À Sofia, ouais.
Ouais, à Sofia.
À Sofia, je ne suis pas rentrée tout de suite en France et j'ai mis quelques années, en fait. Ça m'a pris quelques années, tout ce travail autour de cette
famille. Vous vivez où aujourd'hui?
Alors maintenant, je suis revenue pas mal en France parce que j'ai un enfant et que c'est beaucoup plus difficile de faire des allers-retours. Mais c'est vrai qu'à la fin du tournage, j'avais très envie, enfin, on s'est acheté un appartement à Sofia pour avoir un pied à terre là-bas et c'était très symbolique aussi, c'est-à-dire l'envie de construire quelque chose là-bas, tourner vers le futur, voilà.
Mais aujourd'hui, retour en France. Božina Panayotova, Je vois rouge, c'est un film de famille, un film d'espionnage. Vous revenez sur l'histoire de vos parents, de vos grands-parents, de votre enfance en Bulgarie. Le film est une enquête menée en 2013-2014. Vous avez 30 ans à ce moment-là. Il est temps de passer le permis de conduire et de trouver votre voie dans une vie de non-dits et de secrets. Bande annonce.
Mon enfance communiste enchantée.
Non, mes parents jamais m'ont parlé de police secrète, jamais.
Hein? J'entends pas en fait, j'entends rien.
Réseau secret, agent secret.
Tout le fantasme qu'on peut avoir de ça et qui là en fait est réel, quoi.
Oligarque.
Oh.
Virginie Rouzic, qui est la colonne vertébrale de l'émission, me fait demander par voix de ma réalisatrice, qui est l'autre colonne vertébrale de l'émission, est-ce que, en entendant la bande-annonce, est-ce que vous apprenez le bulgare à votre enfant ?
Ah oui, Bogina. Oui, c'est vrai, oui, je lui parle en bulgare. Oui, oui.
Vous lui faites chanter comme on a entendu tout à l'heure, des comptines.
Malheureusement, je ne les connais pas, je ne les connais plus.
Alors ce film, Je vois rouge, c'est votre premier long métrage documentaire. Vous saviez que votre premier film, votre premier long métrage serait un documentaire et qu'il passerait par une histoire personnelle ? Ça ne pouvait pas être autrement pour ce geste de cinéma.
Alors, il se trouve que j'ai fait la Fémis et en sortant de la Fémis, j'ai plutôt développé une fiction plus classique. Et qu'à un moment donné, mais qui se passait en Bulgarie justement, et à un moment donné, je trouvais ça un peu bizarre d'écrire ce scénario de fiction depuis la France, alors que je voulais parler de la Bulgarie d'aujourd'hui. Et du coup, je pense que j'avais besoin d'un rapport plus direct et plus personnel, immédiat, comme ça, avec le pays. Et donc, je suis partie avec une caméra toute seule, sans du tout savoir ce qui allait se passer. Je savais même pas que j'allais parler de la police secrète au départ. C'était plutôt l'envie de vivre quelque chose, une expérience qui allait me transformer et me reconnecter au pays, et que j'allais documenter en cours de route.
Exactement. Alors, à ce moment-là, quand même, il y a un concours de circonstances. Donc, il y a des manifestations contre l'État, puisqu'on apprend que, en fait, les anciens sont toujours présents par leurs fils ou par des témoins toujours au pouvoir. Et puis aussi, les archives de la police secrète ont été ouvertes il y a quelques années. Et là, vous vous étonnez, en fait, que vos parents ne vous ont jamais parlé de rien et que vos parents, qui vivent en France depuis pas mal d'années, n'ont jamais demandé à avoir accès à leurs dossiers. Et ça vous a inquiété ?
Alors, en fait, mon père, on en avait déjà parlé avec mon père. J'avais même fait un docu-radio pour Arte Radio où, en fait, je lui posais la question. Il me racontait qu'il avait demandé à lire son dossier parce que, selon lui, enfin, on lui avait dit qu'il avait été surveillé. Il avait eu quelques, actes de dissidence, en fait, au moment de la chute du mur. Mais on lui avait dit qu'il n'y avait rien. Et donc, j'avais quand même une vague notion, mais c'était juste mon père et surtout, on n'avait jamais parlé de mes grands-parents, en fait. Et c'est plutôt sur eux que je pensais fouiller, voilà. Parce que là, j'avais une sorte de soupçon bizarre, je sais pas, c'est une intuition, peut-être des conversations entendues quand j'étais petite, mais je ne suis pas sûre. Et là, par contre, on n'en avait jamais parlé, ça, c'est sûr.
Et sur votre père, qu'est-ce qu'on a trouvé alors ?
Alors, sur mon père, rien. On a refait la demande à l'occasion du film. Et de nouveau, enfin, tout le monde est un peu déçu, hein. Il y a ça aussi parce que lui-même, en fait, pensait qu'il y aurait des tonnes et des tonnes qui, du coup, documenteraient aussi là où il a été un peu rebelle, quoi. Et en fait, non, il n'y avait rien.
Et du côté de votre mère, les choses sont beaucoup plus compliquées, en fait.
Voilà, c'est là où le film, enfin, toute cette expérience nous a complètement dépassés. On a perdu le contrôle parce que ma mère était donc traductrice pendant... Elle avait 20 ans, donc pendant le régime.
Votre père était peintre et votre mère, voilà, traductrice.
Voilà, avec le français. Et donc, elle participait à des séminaires où il y avait des Français. Et donc, évidemment, les gens qui ont des rapports avec des étrangers sont la première cible des services à ce moment-là. Et donc, en fait, très très vite, j'ai commencé à lui poser des questions d'abord sur les grands-parents. Et en fait, dès qu'on s'est mis à parler d'elle, en fait, pour moi, c'était une évidence qu'il y aurait quelque chose, mais qui serait de l'ordre de la surveillance. C'est-à-dire, elle a été surveillée puisqu'elle
était en contact avec des Français et des étrangers.
Voilà. Et en fait, c'est autre chose qu'on découvre. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est quelque chose qu'elle n'avait pas elle-même compris. Voilà. On a découvert quelque chose qui l'avait dépassé elle-même à l'époque et qui a fait que ça a aussi provoqué un énorme conflit entre nous, puisque tout à coup, cette caméra qui la suivait partout et qui découvrait cette chose un peu étrange de sa vie était une menace, en fait.
Parce que vous, vraiment, vous travaillez dans tous les domaines. Caméra cachée, archives, vous travaillez par Skype. Tous les moyens sont bons pour documenter, vous dites, le processus d'investigation, de travail.
Oui, alors en fait, petit à petit, plus je voyais que la surveillance devenait le sujet du film, plus je me rendais compte que ces moyens qui sont les miens, en fait, de mon époque, de ma génération, faisaient sens, parce que c'est aussi justement l'autosurveillance qu'on s'inflige aujourd'hui, quoi, avec toutes ces webcams. Et en fait, effectivement, je suis aussi, j'ai commencé aussi à me surveiller moi-même. Il y a un truc comme ça où je suis aussi personnage dans le film. Et il y a comme un point de vue sur moi. On peut, on n'est pas obligé d'adhérer à tout ce que je dis et fais.
Ah non, surtout que quelquefois, on est même de l'avis de vos parents en disant elle est complètement paranoïaque. Exactement. Là, elle va trop loin dans le processus d'investigation. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez été surveillé, vous, de Valfon? Vous le savez?
Ben, d'abord, je ne le saurais pas.
Ouais.
Et donc, ma réponse serait plutôt oui. Vous savez, soudain, il y a maintenant de plus en plus de lecteurs donc, qui me disent, mais par exemple, une réponse que j'aime beaucoup, c'est mais qu'est-ce que moi, je suis comptable, je m'en fous si les Chinois ou les Américains ou les Israéliens m'espionnent. De toute façon, qu'est-ce qu'ils trouveraient? Qu'est-ce qu'ils trouveraient? C'est souvent la réplique. Alors d'abord, c'est un droit de l'homme de n'être pas surveillé. Donc, même si vous n'avez rien à cacher, ça ne veut pas dire que vous devez être pour une surveillance d'État sur d'autres. Et après, les gens ne se rendent pas compte qu'ils peuvent être surveillés pour une bêtise, pour quelque chose qui ne les concerne pas. C'est une coïncidence. Et donc, ce serait dommage de ne pas comprendre ça.
Et c'est exactement ce qui est le cas, sans révéler véritablement ce qui est à l'œuvre dans le film. Il y a juste quelque chose sur lequel on peut quand même insister, c'est sur la notion d'agent inventé. Sans préciser qui est l'agent inventé, mais qu'est-ce qu'un agent inventé?
Oui, alors ça, c'est ce que je découvre aussi pendant le film. C'est que donc, les services secrets bulgares avaient besoin de justifier d'un certain nombre de nouvelles recrues pour faire tourner tout simplement le système, justifier des salaires. Et donc, il y avait certaines personnes qui n'étaient pas à proprement parler informateurs.
Pas du tout, même.
Qui n'étaient pas au courant, en tout cas, de l'être, mais qu'on utilisait comme tel. Et donc, en fait, les employés de la police secrète inventaient plus ou moins les informations qui étaient tirées autour de ces gens-là, quoi.
C'est-à-dire qu'il y a de la fiction dans l'espionnage tel qu'il était pratiqué. C'est quand même absolument incroyable. Juste une question aussi par rapport à votre père. Donc, vous êtes aujourd'hui cinéaste. Lui, il était peintre. On voit bien, votre grand-père était critique de cinéma. Donc, on voit bien toute la filiation. Mais ce qui vous intrigue et qui met à mal la relation avec votre père, c'est que votre père a vendu des tableaux à des gens qui, par la suite, se sont révélés être de la mafia. Et ça vous interroge. Alors que lui-même, et là, on est presque du côté, il est artiste, il faut bien qu'il vive de son métier. Mais qu'est-ce qui vous interroge là-dessus?
Oui, en fait, je pense que ça, c'est vraiment toute la question de ma génération aujourd'hui en Bulgarie, c'est comment est-ce que ces personnes-là sont les figures de pouvoir et comment... alors, effectivement, les artistes sont... Souvent, enfin, cette question du compromis, de l'implication de l'artiste dans la zone de l'élite et du pouvoir est toujours une question, de tout temps en fait. Mais en Bulgarie, elle a une couleur particulière en fait parce que c'est quand même, la mafia, c'est pas et c'est là où moi, j'ai été prise aussi d'un élan, comme il le dit dans le film, hein, il me le reproche comme une sorte d'élan révolutionnaire. Un peu comme ça au premier degré, quoi, où j'avais envie de tout comme expliquer, nettoyer, enfin oui, ce genre
le
de
sens
chose.
Du détail, oui. Le film a été vu en Bulgarie?
Oui, en fait, il est sorti en salle l'année dernière et ça a été un gros événement en fait parce que c'est un sujet très tabou. Et surtout le fait de le prendre comme ça à la première personne parce qu'il y a évidemment des
très incarné, ouais.
Voilà.
Avec une crise familiale,
avec beaucoup d'émotions, en fait, c'est ça. Et du coup, ça permet aussi aux gens de réagir avec leurs émotions. Donc, ça fait débat, hein, là aussi, même scandale parfois. Je sais que les gens sortent du film et s'engueulent parfois. D'autres vont aussi consulter leurs propres archives.
Ah ben, suite à ça, justement, les gens ont dû regarder leurs propres dossiers, voir s'ils avaient été surveillés ou agents eux-mêmes inventés. Ou agents, quelquefois.
Ouais,
et c'était une confirmation.
Ouais. Et en tout cas, ça suscite à nouveau un dialogue. Moi, c'est ça que je trouvais important, c'est que les gens essayent de se parler autour de ces sujets sensibles.
Et le débat continue en salle avec Je vois rouge, signé Bojina Panayotova. Cherry Blossom Girl, Air prenait de la hauteur en 2004. Et bien voilà, le énervé, première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes après le journal avec ça.
Je n'ai jamais vu autant de lettres de salariés faisant le lien entre leur travail et leur souffrance.
Burnout ou bien-être, c'est quoi ce travail ? Le rendez-vous est pris ? Alors à tout de suite.